aujourd'hui, tout est dit, on va parler du psaume 1. Alors peut-être vous connaissez ce psaume, et il dit ceci. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit pas et qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille que le vent emporte. C'est pourquoi ils ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et celle des méchants mène à la ruine. » C'est un psaume que je trouve absolument magnifique. C'est le premier psaume, c'est le psaume 1, donc c'est le premier psaume du livre des psaumes. Et on trouve un thème qui va être récurrent dans le livre des psaumes, puis qu'on retrouve ailleurs dans la Bible, dans les Proverbes, dans l'Ecclésiaste, puis en fait dans toute la Bible. C'est le thème de l'homme juste et de l'homme méchant. Le bon chemin, le mauvais chemin. Et ce n'est pas juste un thème biblique. Je crois que c'est une question qu'on se pose tous. Comment est-ce qu'on va faire dans la vie pour avancer sur le bon chemin et pas sur le mauvais chemin? Et le premier verset dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. » Puis on voit une progression. D'abord, il y a un homme en marche. Ensuite, il y a un homme qui est arrêté. Puis finalement, il y a un homme qui est assis. Et il me semble que dans nos vies, souvent le péché s'introduit à peu près de la même manière. On est en marche, tout va bien dans notre vie, puis tout d'un coup, il y a une petite voix qui est là. Puis on se dit, mais tiens, ça c'est intéressant. Je prends un exemple tout bête. On a tous un agenda qui est bien rempli. Et puis, il y a une chose qu'on aimerait faire, je ne sais pas, par exemple le ménage. On se dit, on a une grosse semaine, on a plein de réunions le soir, on a encore prévu le samedi de sortir, on a le travail. Puis on se dit, ah mais le dimanche, je n'ai rien prévu. Je pourrais faire le ménage le dimanche. Alors on sait bien que ce n'est pas top, parce que le dimanche, c'est le jour du repos. Mais une fois, on n'est pas légaliste, alors une fois, pourquoi pas? Puis on écoute cette voix. Puis dimanche, on fait notre ménage. Puis, on réalise qu'en fait, c'est pas si mal, parce qu'effectivement, on n'a pas eu besoin de courir encore pendant la semaine pour trouver un moment pour faire le ménage. Puis on se dit, ah bah la semaine prochaine, je vais refaire la même chose. Et puis en fait, quelque chose qui une fois était juste une exception devient une petite routine. On s'est arrêté, selon le mauvais conseil, et ensuite on s'est installé vraiment dans cette routine. On a écouté le mauvais conseil et on s'est arrêté. Puis après, on va des fois encore plus loin. C'est qu'on s'assied avec les moqueurs. On voit l'homme qui marche devant nous, puis on dit « Eh, mais viens nous rejoindre sur le banc, il y a encore de la place !» Notre ami est en train de rénover la maison. Puis on va aller lui donner un coup de main. Puis on a vu que le dimanche, ça fonctionnait bien. « Allez, viens, on va faire ça le dimanche, je vais venir te donner un coup de main le dimanche. » Et en fait, on va encourager les autres dans le péché qu'on est en train de commettre. Alors, j'ai pris un exemple assez basique, mais si on réfléchit un petit peu à nos mauvaises habitudes, même à des péchés plus conséquents dans nos vies, est-ce que ce n'est pas souvent comme ça que le péché s'insinue dans nos vies, comme d'abord quelque chose qui paraît tout à fait anodin. Puis ensuite, ce qui paraissait anodin devient une habitude. Et une fois que l'habitude est prise, bien, on appelle les autres à venir avec nous. Et la Bible nous exhorte à ne pas fonctionner comme ça. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Est-ce que vous connaissez la loi de l'Éternel? Et quand le psalmiste il écrit ça, j'imagine qu'il pensait aux cinq premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu ces livres. La Genèse, ça va, c'est assez facile à lire. Mais quand on arrive au Lévitique, est-ce que vous avez lu le Lévitique et est-ce que vous y avez pris du plaisir? Hein? Oui? Ça, c'est génial. Moi, je crois qu'on peut prendre du plaisir en lisant le Lévitique. Et comment est-ce que le psalmiste a pu prendre plaisir en lisant ces livres? Eh bien, je crois que c'est parce qu'il a vu que dans la loi, le caractère de Dieu était reflété. Et puis, peut-être que vous ne connaissez pas le Lévitique, mais il y a une partie de la loi, je suis presque sûr que vous la connaissez, c'est en Exode 20, c'est les 10 commandements. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut sur le ciel, en bas sur la terre et dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait grâce jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ne prends pas le nom de l'Éternel en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prononcera son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est entre tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Et cette loi est absolument fantastique. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'est délivré du pays d'Égypte pour la liberté. Il nous a délivrés de l'esclavage pour nous rendre libres. C'est ça le projet de Dieu. Il y a un seul Dieu, c'est pour ça qu'on veut l'honorer lui seul. On n'a pas besoin de se poser la question, mais dans telle situation, vers qui dois-je me tourner? Il y a une seule source de salut, c'est Dieu. On a un Dieu qui est constant dans son humeur. On n'a pas besoin de se dire, mais est-ce qu'aujourd'hui je peux le prier? Est-ce qu'il sera de bonne humeur? Vous savez, un peu comme quand on réveille quelqu'un, des fois on ne sait pas, est-ce qu'il va se réveiller de bonne humeur ou de mauvaise humeur? Dieu, il sera toujours de bonne humeur. Et puis quand on lit cette loi, on est vraiment émerveillé du plan de Dieu, de sa... parce que finalement, ce qu'il dit, ce qu'il fait, ça reflète ce qu'il est. Puis on se dit, mais on a un Dieu absolument extraordinaire. Et puis, d'un autre côté, quand on lit cette loi, en tout cas moi, quand je l'entends, je ne peux pas m'empêcher d'être mal à l'aise. Parce que je me sens un peu condamné aussi. Parce que je ne respecte pas, je n'arrive pas à mettre tout ça en pratique. Et puis, par exemple, la convoitise. Si je n'avais pas lu que la convoitise était une mauvaise chose, je n'aurais jamais pensé. Et puis d'ailleurs, quand on pose la question autour de nous, mais discutez un peu avec vos collègues, est-ce que tu penses que tu es une bonne ou une mauvaise personne? Est-ce que tu penses que tu agis bien ou mal? Tout le monde va dire, mais je suis quelqu'un de bien. Puis on va lui dire, ah, puis peut-être bourré la gueule le week-end dernier, tu penses que c'est une bonne chose? Oh, écoute, j'ai jamais tué personne, et puis de toute façon, tout le monde le fait. Puis je trouve l'exemple de la convoitise, c'est particulièrement frappant, parce que je crois que si, effectivement, les 10 commandements disaient « Tu ne convoiteras pas », est-ce qu'on aurait pensé que la convoitise est un péché? La loi nous révèle le péché. La loi est-elle péché, nous dit Romains 7. La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». Et le péché, saisissons l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. Le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Nous savons donc que la loi est sainte et que le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, et que moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je vois donc cette loi. Quand je veux faire le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et par la chair esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'esprit de vie m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Nous n'avons plus à être condamnés par la loi parce que Jésus-Christ est venu nous affranchir de la loi en l'accomplissant parfaitement. La loi a été accomplie en Jésus-Christ. Et maintenant, quand on lit cette loi, on peut y prendre encore plus de plaisir que le psalmiste. Parce que non seulement on voit le caractère de Dieu s'y refléter, ce caractère qui est bon, qui est saint, qui est juste, et on voit que la loi, en comprenant cela, eh bien, on est détourné du péché. Mais en plus, cette loi nous conduit jusqu'à Jésus-Christ. Parce que réalisons que, combien même je mets tous les efforts pour y arriver, je n'y arriverai jamais. Et on voit Christ qui vient accomplir cette loi parfaitement pour que moi, je puisse en être affranchi, pour que tu puisses en être affranchi. Et on peut dire que dans la loi, il y a deux parties. Il y a d'une part toutes les lois sacrificielles. On en trouve tout plein dans le Lévitique. Jésus-Christ a accepté de souffrir, d'aller jusqu'à la mort pour accomplir toutes ces lois. On peut aussi voir les lois morales, comme les 10 commandements. Jésus-Christ a vécu une vie parfaite. Il a toujours honoré ses parents, il a toujours respecté le sabbat. Il n'a jamais convoité. Il a parfaitement accompli la loi. Et aujourd'hui, parce qu'il est mort pour mes péchés, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est monté au ciel et qu'il nous envoie son esprit, eh bien nous sommes au bénéfice de ce que Christ a accompli. Et même, par son esprit, il nous rend capables d'accomplir la loi. On peut vivre, justement, on est délivré du péché. Et chose encore plus incroyable, combien même on en viendrait à pécher. Ce qui arrivera à coup sûr. Nous savons que Christ a accompli la loi et qu'on peut aller à ses pieds et puis lui dire « Mais je me suis planté, je me suis trompé de chemin. Viens à mon secours, Seigneur. » Et Christ nous délivrera une fois de plus. Il nous arrachera du pays d'Égypte, il nous arrachera de la maison de la servitude, du péché, pour nous transporter dans son royaume, pour faire de nous des saints remplis de la lumière. Christ a accompli la loi. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Le mot qui est utilisé pour méditer, c'est plus que simplement y réfléchir un peu de temps en temps quand on a un petit peu de temps. Non, c'est vraiment, c'est réciter, c'est méditer en murmurant. Et ce qui m'interpelle, c'est méditer jour et nuit. Comment est-ce qu'on va bien pouvoir méditer la parole de Dieu jour et nuit? Il me semble que le seul moyen, c'est d'en apprendre des passages par cœur. Parce que quand on a quelques versets en tête, comme ça on est à l'arrêt de bus, on peut dire « Ah oui Seigneur, pourquoi est-ce que tu me demandes de ne pas commettre d'adultère ?» Puis on peut réfléchir là-dessus, puis on peut dire « Ah mais parce que Dieu, il veut que j'aie une relation privilégiée avec ma femme. » Ah, parce que Dieu, en fait, il aime les relations privilégiées et il veut que je puisse moi-même avoir une relation privilégiée avec lui. Puis on peut méditer ainsi sur la loi de l'Éternel. Les deux versets qui suivent, dans le psaume 1, disent que l'homme qui médite la loi de l'Éternel est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit pas, et qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en sait pas ainsi des méchants qui sont comme la paille que le vent emporte. Et on voit de nouveau le juste, le méchant, non plus dans ce qu'ils font, mais dans ce qu'ils sont. Et j'aime beaucoup cette image du juste qui est comme un arbre verdoyant qui donne son fruit en sa saison. Il y a une sérénité qui se dégage de cette image. Il y a une paix, il y a un ressourcement. Et quand on s'enracine en Dieu, on peut vivre cette paix. Et le contraste avec le méchant est saisissant. Le méchant, c'est juste de la paille. Un coup de vent et il est balayé. Alors que l'homme juste, il reste là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le vent souffler sur un arbre, il ne bouge pas. Puis des fois, je me dis, mais c'est trop injuste. Parce que dans la vie, on a l'impression que c'est l'inverse. Que le juste, il est en train de dépérir, qu'il a de la peine à payer ses factures à la fin du mois, qu'il a des problèmes avec l'administration. Et puis que celui qui accepte de faire des détours dans sa vie, il prospère, il fleurit, il devient riche. Et pourtant, ouvrez le journal et vous verrez, il y a des gens qui sont enrichis n'importe comment, du jour au lendemain. Ils tombent et ils ne sont plus rien. Et la première fois que j'ai parlé de ça, c'était, je crois, en 2013. J'avais des exemples très précis en tête. Et aujourd'hui, j'ai d'autres exemples qui sont très précis, qui datent des nouvelles de ces derniers jours. Et des fois, c'est étonnant. On voit des gens qui prospéraient, qui semblaient avoir tout réussi dans leur vie. Du jour au lendemain, ils sont balayés il n'y a plus rien, comme la paille que le vent emporte. C'est pourquoi ils ne résisteront pas au jour du jugement, ni le pécheur dans l'assemblée des justes. Et des fois, on a envie, un peu autour de nous, de pouvoir faire le tri entre celui qui est bon, entre celui qui est méchant. On a envie de savoir qui est juste et qui ne l'est pas. Et c'est hyper difficile. Et même dans l'Église, on aimerait bien savoir qui est le véritable chrétien, puis qui ne l'est pas vraiment, qui est-ce qui vient là pour connaître Dieu, qui est-ce qui vient là pour s'exalter lui-même. Et Dieu dit, mais ils ne résisteront pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Il y a un moment donné où Dieu fera le tri. On peut compter sur lui. Et des fois on se dit, mais comment on va faire? Mais laissons Dieu faire, regardons, il va agir. Et c'est lui qui va élever l'homme juste, qui va le rendre stable, qui va l'affermir, qui va lui faire porter du fruit. Pas forcément tout le temps, mais en sa saison. Son feuillage ne flétrira pas. Et c'est lui qui se chargera de balayer le méchant au moment convenu, au moment où il l'aura choisi, dans le monde présent ou lors du jugement dernier. Il fera le tri. Il est comme un arbre, l'homme juste est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et qu'est-ce qui fait la différence entre l'homme juste et l'homme mauvais? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui devient verdoyant et l'autre qui devient comme de la paille? Le psaume 1 nous dit qu'il y en a un qui médite la parole de l'Éternel et l'autre qui écoute les conseils des hommes méchants, qui se complaît dans son péché. Et je vous exhorte vraiment, hommes et femmes de Dieu, à méditer la parole de Dieu. Parce que par la puissance de son esprit, à travers Jésus-Christ, vous allez vous enraciner dans le Père. Vous allez avoir des racines profondes. Et je ne sais pas ce que la vie vous réserve. Mais peut-être qu'une fois il y aura des difficultés. Inévitablement, il y aura des temps de sécheresse dans nos vies. Et bien si on est fermement enraciné en Dieu, on pourra continuer à être verdoyant, on pourra continuer à porter du fruit. Parce que Dieu nous permettra de le faire. Et quand on voit un arbre porter du fruit, on a l'impression qu'il ne fait pas d'effort, on a l'impression que c'est naturel. Et quand Dieu nous conduit à porter du fruit, ça ne nous demande pas toujours de grands efforts. C'est quelque chose que lui fait à travers nous. Car l'Éternel connaît la voie des justes et celle des pécheurs mène à la ruine. Le terme connaître a plusieurs significations. Vous savez, en français, on peut utiliser le verbe connaître pour être au courant de la dernière nouvelle. Et dit, est-ce que tu connais la dernière info? Est-ce que tu as lu ça dans le journal? On peut utiliser le verbe connaître pour parler d'un savoir-faire. Est-ce que tu connais les vélos? Est-ce que tu connais les voitures? On peut utiliser le verbe connaître pour avoir des relations sexuelles. Adam a connu Ève. Et il y a un sens en hébreu que le français n'a pas. C'est la signification de prendre soin. L'Éternel connaît la voie des justes. L'Éternel, il va prendre soin de ceux qui marchent selon son conseil, de ceux qui ont décidé de suivre Jésus-Christ, qui trouvent du plaisir dans la loi de l'Éternel. Et une des choses qui se passe encore quand on lit la loi de l'Éternel, c'est qu'on trouve tout plein de conseils pour notre vie, parce que non seulement ça nous permet de limiter nos péchés, ça nous conduit à Christ, mais en plus ça nous montre comment nous comporter pour plaire à Dieu. Et l'Éternel, il voit tout ça, il connaît tout ça, et il va pourvoir par sa providence, ça c'est un terme vieillot qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui, mais la providence de Dieu, c'est le fait qu'il contrôle toutes choses, même le vent, même la neige, même la pluie, même ce que ton voisin, il va dire. Et il va utiliser tout ça d'une manière mystérieuse pour prendre soin des justes. Et la voix des méchants mène à la ruine. Alors, prenez votre plaisir dans la loi de l'Éternel. N'écoutez pas les mauvais conseils. Vous serez comme des arbres verdoyants. Dieu s'occupera des méchants, de les juger, de les faire tomber, de les balayer. Mais les justes resteront enracinés en Dieu jusque dans l'éternité. Je vais prier. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour ta parole, parce qu'elle est une lumière devant nos pas. Seigneur, nous te remercions parce que ce n'est pas juste des mots vides de sens, mais tu les habites, Seigneur. En lisant la Bible, nous pouvons nous approcher de toi, nous pouvons connaître Jésus-Christ. Et notre plus cher désir, c'est de vivre avec toi, notre Seigneur et notre Dieu. Seigneur, quand nous lisons la loi, bien souvent, on se sent condamné. Mais Seigneur, maintenant, j'aimerais déposer mes péchés à tes pieds. J'aimerais te dire que je me suis trompé de chemin. Et j'aimerais que tu me pardonnes, Seigneur, parce que j'ai besoin de ton pardon. Merci d'avoir envoyé Jésus-Christ pour accomplir ce que je n'arrive pas à faire. Seigneur, viens me remplir de ton esprit pour que je sois au bénéfice de ce que Christ a accompli. Fais de moi cet arbre verdoyant. Permets-moi de puiser en toi quand les temps seront difficiles. Seigneur, tu es tout pour nous. Viens habiter au milieu de nous. Amen.